Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous continuons notre émission sur le thème des indulgences que nous avions vu dans les deux dernières émissions, particulièrement dans l'émission de la semaine dernière. Nous avons vu ensemble tout ce qui touche aux concessions, les différentes concessions pour gagner ces indulgences, qu'elles soient plénières ou partielles, comme nous l'avons vu. Et nous avons pu voir que, il y a de nombreuses occasions qui nous sont offertes par l'Église pour que nous puissions, entre guillemets, gagner ces indulgences, c'est-à-dire pouvoir recevoir ces grâces de sanctification. Rappelons également rapidement que l'indulgence que nous donne l'Église, en fait, touche la rémission partielle ou totale de la peine due au péché. La faute est remise par le sacrement de la réconciliation ou par la miséricorde du Seigneur, que ce soit dans le sacrement de la réconciliation pour des péchés graves, soit aussi par un acte pénitentiel. Donc la faute est remise, mais il y a encore la peine aussi qui demande une participation d'expiation de cette peine, donc dite de purification aussi ou de sanctification. Et le Seigneur ne nous abandonne pas, mais il nous donne au contraire tous les moyens pour que nous puissions vivre cette sanctification dès maintenant, puisque le temps que nous avons sur la terre nous est donné pour que nous puissions avancer dans la conversion et aussi grandir dans la sainteté. Ce n'est pas seulement nous convertir, c'est-à-dire faire un retour vers le Seigneur, voire changer de vie même pour mettre le Seigneur au centre de notre vie, mais c'est aussi dans le quotidien de notre vie, nous avons à grandir dans ce plan de la sainteté que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et pour cela, il nous donne tous les moyens. Tout d'abord, les moyens essentiels, nécessaires au salut, que sont les sacrements, et puis le moyen de la prière, le moyen de la charité, de l'aumône, des sacrifices, et donc aussi ces moyens d'exercice de piété particulière, en des circonstances particulières, pour aussi bien grandir dans cette sanctification. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez reprendre l'émission, l'émission numéro 20 sur les fins dernières et des indulgences. C'est l'émission qui datait du 22 mars. Vous pouvez la retrouver sur le site internet radiosalveregina.com à la rubrique Eschatologie et prophétie, l'émission donc du 22 mars. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour conclure ce chapitre sur les indulgences, sur la constitution apostolique du pape Paul VI, Saint Paul VI, donc évêque et serviteur des serviteurs de Dieu. Cette constitution intitulée Indulgentiarum Doctrina, la doctrine et la pratique des indulgences. Et j'ai choisi de parcourir avec vous, de vous donner quelques extraits de cette constitution, parce qu'elle nous donne l'esprit dans lequel nous devons vivre ces indulgences dans l'Église, la manière dont nous devons les recevoir et comment nous devons aussi les interpréter. La doctrine et la pratique des indulgences, telles qu'elles sont en vigueur dans l'Église catholique depuis de nombreux siècles, trouvent leur solide fondement dans la révélation divine. En particulier, à la lumière du chapitre 28, verset 18 de Saint Matthieu, qui donne le pouvoir aussi de lier et de délier, le pouvoir de concéder les indulgences ayant été accordées par le Christ à l'Église, et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui avait été divinement communiqué depuis les temps les plus anciens. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Cette révélation divine, donc avec l'assistance de l'Esprit-Saint, nous est transmise à l'Église au cours des siècles, et sans cesse, celle-ci est tendue vers la plénitude de la vérité divine, jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Pour que l'on comprenne bien cette doctrine et sa pratique salutaire, il nous faut rappeler un certain nombre de vérités que l'Église universelle, éclairée par la parole de Dieu, a toujours crues comme telles, et que les évêques, successeurs des apôtres, et en premier lieu les pontifes romains, successeurs de saint Pierre, ont enseigné au cours des siècles jusqu'à nos jours, tant par la pratique pastorale que par les documents doctrinaux. Comme l'enseigne la révélation divine, à la suite du péché, des peines sont infligées par la sainteté et la justice divine, soit dans ce monde par des souffrances, des misères, les épreuves de cette vie et particulièrement par la mort, soit dans l'au-delà par le feu et les tourments ou par les peines purificatrices. Les fidèles ont donc toujours été persuadés que l'on rencontre beaucoup d'amertume lorsque l'on s'engage dans la mauvaise voie et que celle-ci s'avère nocive, parsemée d'épines et d'aspérités pour ceux qui la suivent. Ces peines sont imposées par Dieu par un jugement juste et miséricordieux pour purifier les âmes, pour protéger la sainteté de l'ordre moral et pour restituer à la gloire de Dieu la plénitude de sa majesté. Tout péché trouble en effet l'ordre universel que Dieu a établi dans sa sagesse indicible et son amour infini, et il détruit des biens immenses tant chez le pécheur lui-même que dans la communauté des hommes. Aussi, de tout temps dans l'esprit des chrétiens, le péché est-il apparu clairement non seulement comme une transgression de la loi divine, mais de plus comme un mépris et un dédain, même s'ils ne sont pas toujours directs et manifestes, de l'amitié personnelle entre Dieu et l'homme, comme une vraie offense à Dieu dont on ne saurait jamais suffisamment mesurer la gravité, et même comme un ingrat rejet de l'amour de Dieu qui nous est offert dans le Christ, lui qui a appelé ses disciples amis et non serviteurs. Pour la pleine rémission et réparation des péchés, il est donc nécessaire non seulement que soit rétablie l'amitié avec Dieu par une sincère conversion du cœur et que soient expiées les offenses faites à sa sagesse et à sa bonté, mais aussi que tous les biens personnels, sociaux ou qui appartiennent à l'ordre universel lui-même, ainsi affaiblis ou détruits par le péché, soient pleinement restaurés par une réparation volontaire qui ne se fera pas sans peine, ou bien en supportant les peines établies par la juste et très sainte sagesse de Dieu, grâce auxquelles se manifestera dans le monde entier la sainteté et la splendeur de la gloire de Dieu. En outre, c'est à l'existence et à la gravité des peines que l'on reconnaît la folie et la malice du péché, ainsi que ses funestes conséquences. Que puissent demeurer et que de fait demeurent souvent des peines à subir ou des rejets des péchés à purifier, même après que la faute ait été déjà remise. C'est ce que montre bien la doctrine du purgatoire. C'est là en effet que les âmes des défunts qui sont morts vraiment repentis dans la charité de Dieu, avant d'avoir satisfait par de dignes fruits de pénitence pour ce qu'ils ont commis ou omis, sont purifiés après la mort par des peines purificatives. La même chose ressort suffisamment des prières liturgiques dont la communauté chrétienne, admise à la Sainte Communion, se sert depuis les temps les plus anciens pour implorer « Nous qui souffrons à juste titre pour nos péchés, nous soyons libérés avec miséricorde pour la gloire de ton nom ». Nous poursuivons la lecture de la Constitution apostolique de sa sainteté le pape Paul VI sur la doctrine et la pratique des indulgences, au chapitre 2. Dans le secret et la bonté du mystérieux dessein de Dieu, les hommes sont unis entre eux par une solidarité surnaturelle par laquelle le péché d'un seul nuit aussi aux autres, de même que la sainteté d'un seul profite également aux autres. C'est ainsi que les fidèles s'aident les uns les autres à parvenir à leur fin surnaturelle. Nous trouvons un témoignage de cette communion, déjà chez Adam, dont le péché passe par propagation à tous les hommes. Mais le principe le plus grand et le plus parfait de ce lien surnaturel, le fondement et le modèle en est le Christ lui-même, en la communion de qui Dieu nous a appelés. En effet, le Christ, qui n'a pas commis de péché, a souffert pour nous, a été transpercé à cause de nos iniquités, broyé à cause de nos perversités, Lui dont les plaies nous ont guéris, nous dit l'apôtre Saint-Pierre. En marchant sur les traces du Christ, les fidèles se sont toujours efforcés de s'aider les uns les autres sur la voie qui mène au Père Céleste par la prière, par l'échange des biens spirituels et par l'expiation pénitentielle. Plus ils étaient animés par la ferveur de la charité, plus ils suivaient le Christ souffrant en portant leur propre croix pour l'expiation de leurs propres péchés et de ceux des autres, étant assurés qu'ils pouvaient aider leurs frères auprès de Dieu, Père des miséricordes, et à parvenir ainsi au salut. Tel est le dogme très ancien de la communion des saints, en vertu duquel la vie de chacun des enfants de Dieu dans le Christ et par le Christ se trouve unie par un lien merveilleux avec la vie de tous ses autres frères chrétiens dans l'unité surnaturelle du corps mystique du Christ, en quelque sorte, en une seule personne mystique. En cela apparaît le trésor de l'Église. En effet, il n'est pas comme une somme de biens à l'instar des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais il est le prix infini et inépuisable qu'ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ notre Seigneur, offerts pour que toute l'humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C'est le Christ Rédempteur lui-même en qui sont et vivent les sanctifications et les mérites de sa rédemption. En outre, font aussi partie de ce trésor la valeur vraiment immense, incommensurable et toujours nouvelle, compte devant Dieu les prières et les bonnes œuvres de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints qui se sont sanctifiés en marchant sur les traces du Christ Seigneur par sa grâce et ont mené à bien l'œuvre que le Père leur avait confiée. De sorte qu'en travaillant à leur propre salut, ils ont ainsi coopéré également au salut de leurs frères dans l'unité du corps mystique. Selon la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens, en effet, tous ceux qui sont du Christ et qui possèdent son esprit constituent une même Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. L'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ n'est nullement interrompue. Bien au contraire, selon la foi constante de l'Église, elle est renforcée par l'échange des biens spirituels. Parce qu'ils sont plus intimement unis au Christ, ceux qui sont au ciel affermissent plus solidement toute l'Église dans la sainteté et contribuent de multiples manières à donner plus d'ampleur à son édification. En effet, accueillis dans la patrie et présents devant le Seigneur, ils ne cessent par lui, avec lui et en lui d'intercéder pour nous autres auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Alors qu'ils étaient sur la terre, où ils ont servi le Seigneur en toutes choses et achevé dans leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Ainsi, leur fraternelle sollicitude apporte une aide considérable à notre faiblesse. Il existe donc certainement entre les fidèles, ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre, un constant lien de charité et un abondant échange de tout bien, grâce auquel est apaisée la justice divine, tous les péchés du corps mystique tout entier étant expiés, tandis que la miséricorde de Dieu est inclinée au pardon pour que les péchés contrits soient introduits plus tôt dans la jouissance complète des biens de la famille de Dieu. Chapitre 3. Conscient de ces vérités depuis les premiers temps, l'Église a trouvé et a suivi diverses voies pour que les fruits de la rédemption du Seigneur soient appliqués à chaque fidèle et pour que les fidèles travaillent au salut de leurs frères, et ainsi le corps de l'Église tout entier soit rassemblé dans la justice et la sainteté pour l'avènement parfait du royaume de Dieu, lorsque Dieu sera tout en tous. Les apôtres eux-mêmes exhortaient leurs disciples à prier pour le salut des pécheurs, et cet usage a été saintement maintenu après par une très ancienne tradition de l'Église, particulièrement lorsque les pénitents faisaient appel à l'intercession de toute la communauté et que les défunts étaient aidés par les suffrages notamment par l'offrande du sacrifice eucharistique. Les bonnes œuvres également, en premier lieu celles qui sont difficiles pour la fragilité humaine, étaient dès les premiers temps offertes à Dieu dans l'Église pour le salut des pécheurs. Et comme les souffrances endurées par les martyrs pour la foi et la loi de Dieu étaient considérées comme très précieuses, les pénitents avaient toute coutume de leur demander de les aider par leur mérite et à obtenir plus rapidement de l'évêque leur réconciliation. Les prières et les bonnes œuvres des justes étaient très estimées au point que l'on affirmait que le pénitent était lavé, purifié et racheté grâce à l'aide de tout le peuple chrétien. Mais en tout cela, on estime que ce n'était pas chacun des fidèles qui, seulement par ses propres forces, contribuait à la rémission des péchés de ses frères. On croyait que c'était l'Église elle-même, comme un seul corps uni au Christ tête, qui satisfaisait en chacun de ses membres. Et l'Église des Pères était tout à fait persuadée qu'elle accomplissait l'œuvre de salut en communion et sous l'autorité des pasteurs que l'Église a constitué évêques pour gouverner l'Église de Dieu. C'est pourquoi les évêques, après avoir examiné prudemment toutes choses, établissent le mode et la mesure de la sanctification à fournir, permettaient même que les pénitences canoniques soient rattachées par d'autres œuvres peut-être plus faciles, utiles au bien commun, ou entretenant la piété à accomplir par les pénitents eux-mêmes et parfois même par les autres fidèles. Chapitre 4. La conviction existant dans l'Église que les pasteurs du troupeau du Seigneur pouvaient libérer chaque fidèle de ce qu'il restait de ses péchés par l'application des mérites du Christ et des saints conduisit progressivement au cours des siècles à la pratique des indulgences sous le souffle de l'Esprit-Saint qui anime constamment le peuple de Dieu. Par cette pratique s'accomplit un progrès, non pas un changement dans la doctrine et la discipline de l'Église, et de la racine de la révélation, on a retiré un nouveau bien dans l'intérêt des fidèles et de toute l'Église. La pratique des indulgences s'étendit progressivement et elle apparut dans l'histoire de l'Église comme un fait important lorsque les papes décrétèrent que certaines œuvres utiles au bien commun de l'Église comptaient pour toute pénitence et accordèrent aux fidèles vraiment pénitents et s'étant confessés qui accomplissait ses œuvres en vertu de la miséricorde de Dieu Tout-Puissant et confiant dans les mérites et dans l'autorité de ses apôtres et par la plénitude du pouvoir apostolique, non seulement une rémission pleine et plus étendue, mais la rémission plénière de tous leurs péchés. Car le Fils unique de Dieu a acquis pour l'Église militante un trésor qu'il a confié au bienheureux Pierre, détenteur des clés du ciel et à ses successeurs, ses vicaires sur la terre, afin qu'il le dispense pour le salut des fidèles et pour des causes raisonnables et appropriées. Il l'applique avec miséricorde à tous ceux qui se repentent et se confessent, remettant parfois en totalité, parfois en partie, la peine temporelle due pour les péchés, aussi bien de façon générale que spéciale, selon qu'il le juge opportun dans le Seigneur. On sait que les mérites de la Sainte Mère de Dieu et de tous les élus contribuent à accroître ce trésor. Cette rémission de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée a été proprement appelée indulgence. Cette indulgence a des points communs avec d'autres moyens ou voies destinées à enlever les restes des péchés, mais en même temps, elle s'en distingue nettement. Dans l'indulgence, en effet, usant de son pouvoir de ministre de la rédemption du Christ Seigneur, l'Église non seulement prie, mais avec autorité, elle étend aux fidèles bien disposés le trésor des satisfactions du Christ et des saints pour la rémission de la peine temporelle. La fin que se propose l'autorité ecclésiastique en accordant les indulgences est non seulement d'aider les fidèles à solder les peines de leurs dettes, mais aussi de les inciter à accomplir des œuvres de piété, de pénitence et de charité, particulièrement celles qui mènent à l'accroissement de la foi et au bien commun. Si les fidèles appliquent ensuite les indulgences en suffrage pour les défunts, ils exercent la charité au plus haut point et tandis qu'ils pensent aux choses d'en haut, ils ordonnent de façon plus juste celles de la terre. Le magistère de l'Église a défendu et exposé cette doctrine dans divers documents, mais parfois des abus se sont introduits dans la pratique des indulgences, soit parce que par des indulgences immodérées et superflues, on dépréciait les clés de l'Église et on affaiblissait la sanctification pénitentielle, soit parce que le nom des indulgences était blasphémé à cause de profits condamnables. L'Église, cependant, en amendant et en corrigeant les abus, enseigne et prescrit que la pratique des indulgences, extrêmement salutaire pour le salut des chrétiens, est confirmée par l'autorité des saints conciles, doit être maintenue dans l'Église. Et elle condamne par l'anathème ceux qui prétendent qu'elles sont inutiles ou nient que l'Église ait le pouvoir de les accorder. L'Église, aujourd'hui encore, invite tous ses fidèles à bien peser et considérer la valeur de la pratique des indulgences pour entretenir la vie de chacun et bien plus de toute la société chrétienne. Pour rappeler brièvement l'essentiel de cette pratique salutaire, nous enseigne d'abord la douleur et l'amertume d'avoir abandonné le Seigneur Dieu. En effet, lorsqu'ils gagnent des indulgences, les fidèles comprennent qu'ils ne pourraient pas expier par leur propre force le mal qu'en péchant ils se sont fait à eux-mêmes et à toute la communauté, et sont ainsi incités à une salutaire humilité. Ensuite, la pratique des indulgences enseigne par quelle union intime nous sommes unis entre nous dans le Christ, et combien la vie surnaturelle de chacun peut servir aux autres pour qu'ils puissent eux aussi s'unir plus facilement et plus étroitement avec le Père. C'est pourquoi la pratique des indulgences enflamme efficacement la charité. Elle exerce de façon éminente quand on vient en aide à nos frères qui dorment dans le Christ. De même, le culte des indulgences redresse la confiance et l'espoir d'une pleine réconciliation avec Dieu le Père. Il le fait sans donner prétexte à aucune négligence et il ne dispense en rien de l'effort pour se mettre dans les dispositions que requiert la pleine communion avec Dieu. Car bien qu'elles soient des dons gratuits, les indulgences ne sont accordées pour les vivants et pour les morts qu'à certaines conditions. Pour les obtenir, il faut d'une part que les bonnes œuvres prescrites aient été accomplies, et d'autre part que les fidèles soient dans les conditions voulues, c'est-à-dire qu'ils aiment Dieu, qu'ils détestent les péchés, qu'ils aient confiance dans les mérites du Christ et qu'ils croient fermement que la communion des saints lui est d'une grande utilité. Il ne faut pas oublier qu'en gagnant les indulgences, les fidèles se soumettent avec docilité, au pasteur légitime de l'Église, en particulier au successeur du bienheureux Pierre, à qui ont été confiées les clés du ciel, auquel le Seigneur a donné mandat de paître et de gouverner son Église. C'est pourquoi l'institution salutaire des indulgences concourt à sa manière à ce que soit présentée au Christ une Église sans tache ni ride, mais sainte et immaculée, admirablement unie dans le Christ par le lien surnaturel de la charité. En effet, grâce aux indulgences, les membres de l'Église souffrante sont plus rapidement admis dans l'Église céleste, de sorte que par elle le royaume du Christ s'étende et s'instaure de plus en plus rapidement, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte et à la taille du Christ dans sa plénitude. Fondez donc sur ces vérités lorsque notre Sainte Mère l'Église recommande de nouveau à ses fidèles la pratique des indulgences comme ayant été très en faveur dans le peuple chrétien pendant de nombreux siècles et comme très précieuse encore aujourd'hui, ainsi que le montre l'expérience. Elle n'a aucunement l'intention de retrancher quoi que ce soit des autres moyens de sanctification et de purification, en premier lieu du saint sacrifice de la messe et des sacrements, notamment le sacrement de pénitence, ensuite de ses nombreux moyens que l'on regroupe sous le nom de sacramentaux, et enfin des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Tous ces moyens ont ceci en commun, qu'ils sanctifient et purifient d'autant plus efficacement que l'on est plus étroitement uni par la charité au Christ tête et au corps de l'Église. La primauté de la charité dans la vie chrétienne se trouve également confirmé par les indulgences. Car les indulgences ne peuvent pas être gagnées sans une sincère métanoïa, conversion, et sans l'union avec Dieu auquel s'ajoute l'accomplissement des œuvres prescrites. On conserve donc l'ordre de la charité dans lequel la rémission des peines prend place grâce à la dispensation du trésor de l'Église, tout en exhortant ses fidèles à ne pas négliger les saintes traditions de nos pères et à ne pas les dédaigner, mais à les accueillir religieusement comme un précieux trésor de la famille catholique et à les respecter. L'Église laisse à chacun le soin d'utiliser ses moyens de purification et de sanctification dans la sainte et juste liberté des enfants de Dieu, tandis qu'elle leur remet continuellement en mémoire les choses qu'il faut préférer pour parvenir au salut parce qu'elles sont nécessaires ou meilleures et plus efficaces. Mais pour conférer une plus grande dignité et une plus grande estime à l'usage même des indulgences, notre Sainte Mère l'Église a estimé opportun d'introduire certaines innovations dans leur discipline et elle a décidé de fixer de nouvelles normes. Les règles qui suivent apportent ces changements opportuns à la discipline des indulgences en intégrant également les propositions faites par les assemblées épiscopales. Les dispositions du Code de droit canonique et les décrets du Saint-Siège sur les indulgences demeurent inchangées dans la mesure où elles correspondent aux nouvelles règles. Trois objectifs ont spécialement guidé la rédaction de ces règles: établir une nouvelle mesure pour l'indulgence partielle, réduire opportunément le nombre des indulgences plénières, donner plus de simplicité et de dignité aux indulgences dites réelles et locales. Toutes ces normes, je vous le rappelle, vous pouvez donc les retrouver dans le manuel des indulgences. Vous pouvez le trouver même en PDF peut-être sur Internet, sur le site du Vatican et aussi aux éditions du Jubilé. Donc il y a eu donc une nouvelle édition qui a été faite en 2000. Peut-être que pour le Jubilé 2025, l'année prochaine, une nouvelle édition aussi sortira. En tout cas, n'hésitons pas à avoir recours à ces grâces que nous donne l'Église pour avancer dans ce chemin de sanctification. Nous terminons ainsi notre émission pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Eschatologie et prophétie. Bonne semaine à vous tous.
Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.